Nous venons entendre cet évangile qui se situe au tout début de l'évangile de Marc. Et il nous faut remarquer, alors que nous sortons depuis 15 jours maintenant du temps de Noël, avec la grande fête de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur, nous entrons dans un temps qui n'est pas en rupture avec le temps précédent, ce temps de Noël, mais à partir du baptême du Seigneur, le Seigneur commence sa vie publique. Et donc nous sommes dans la vie publique de Jésus et nous entendons Jésus qui commence à circuler en Galilée, qui commence à enseigner et surtout à interpeller. Et nous allons continuer à le suivre pendant le temps ordinaire qui est devant nous là, et puis ensuite qui va nous faire entrer, nous avons suivi Jésus jusqu'à Jérusalem où il va offrir sa vie. Mais 40 jours auparavant, nous allons nous préparer, c'est plus nous qui allons nous préparer à vivre ce temps de la passion du Seigneur et ce temps de sa résurrection en vivant 40 jours de carême, 40 jours de retraite, sur le modèle de Jésus avant d'entrer dans sa vie publique. Il vivra lui aussi ses 40 jours. Mais en tout cas, nous sommes maintenant donc dans ce temps où Jésus sillonne la Terre Sainte pour annoncer l'Évangile. Et que dit-il ? Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile. Et cette interpellation nous rejoint encore aujourd'hui. C'est à nous qu'il le dit, convertissez-vous. Alors on peut se poser la question toujours, comment me convertir ? On n'a jamais fini de se convertir. Il y a la grande conversion qui est le moment de la rencontre de Jésus, qui fait que ça bouleverse notre vie. Mais ensuite, nous avons des résistances très importantes en nous. Nous n'arrivons pas à nous mettre complètement à la suite de Jésus. Il nous faut vraiment du temps, et même quand on se donne, on se reprend. Souvent, on se donne et on se reprend presque aussitôt ou très rapidement. Et quelle que soit notre vocation, c'est pour ça que quelles que soient les vocations, on a besoin de se laisser interpeller par cette parole de Jésus, convertissez-vous. Alors, à l'écoute de la parole de Dieu d'aujourd'hui, je dirais deux aspects de la conversion. Le premier aspect, c'est ce que je viens de vous partager et ce que nous dit la suite de l'Évangile. Il interpelle Pierre, il interpelle les premiers disciples, les premiers apôtres, et de la même manière, il nous interpelle, il nous invite à le suivre. C'est sans doute premier moyen, comment me convertir ? Eh bien, me décider de nouveau à suivre Jésus. Ça peut impliquer des choses très concrètes, ça peut impliquer, quand on est jeune, de se poser la question de sa vocation. Qu'est-ce que Jésus me demande de faire, de vivre à ses côtés ? De vraiment se mettre à le suivre, ça veut dire je lâche mes projets, je lâche ma vie telle qu'elle est, et je fais confiance à Jésus, je me mets à son école et je me mets à sa suite. Ça peut vouloir dire aussi, pour ceux qui sont plus avancés dans l'âge, on va dire, qui ont désormais une situation, un état de vie, qui se sont mariés, ou bien, et bien, de se dire, qu'est-ce que Jésus attend de moi pour suivre Jésus ? Et parfois, pour le suivre. Et parfois, on voit qu'il nous appelle à quitter des choses, à lâcher prise. À renoncer à certaines choses pour mieux le suivre. On va continuer, bien sûr, la vie normale, la vie quotidienne, le travail, la vie du foyer, du couple, de la famille, bien sûr. Mais en suivant Jésus, en quittant quand même tout pour le suivre. Et donc, parfois, il y a des choses qu'on n'a pas quittées ou qu'on a quittées et qu'on a reprises. Donc, il faut les quitter de nouveau. Voilà. Et puis, enfin, il y a une troisième, toujours dans cette attitude de suivre Jésus, un troisième élément, c'est que si on n'y voit pas clair, on ne sait pas bien, et bien vraiment, consciemment, intérieurement, et aussi physiquement, c'est-à-dire dans nos démarches ecclésiales de prière, de participation à l'Eucharistie dominicale, et parfois hebdomadaire, et parfois en semaine, et bien de vraiment, intérieurement, se mettre vraiment à la suite. Jésus, je veux te suivre. Guide-moi, conduis-moi. Je veux me mettre à ta suite. Cette démarche de confiance, d'abandon dans les mains du Seigneur est indispensable pour être chrétien. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est vraiment cela. Le deuxième élément, que nous, la parole de Dieu nous invite à nous montre aujourd'hui, c'est dans la deuxième lecture que ça nous est donné. Vous avez vu, celui qui a une femme qui fasse comme s'il n'en avait pas, celui qui a des richesses comme s'il n'était pas riche, celui qui profite de la vie comme s'il n'en profitait pas, c'est étrange. Et pourtant, c'est une caractéristique du chrétien. C'est-à-dire qu'en fait, le chrétien ne vit pas que pour cette terre. Quand il vit bien sûr les choses de cette terre, la vie de cette terre. Quand on est marié, on vit l'état de son mariage. Quand on a une famille, on s'occupe de ses enfants. Quand on a on cherche à avoir un travail. Quand on en a, on essaie de travailler bien. On vit comme les autres, extérieurement, mais pas de la même manière. On vit la même chose que les autres, mais pas de la même manière. Parce qu'il y a ce recul qu'il faut bien comprendre, cette distance par rapport à la vie terrestre qu'il nous est important d'entretenir. Parce que ce monde passe. Ça, c'est nous le savons, nous. Arrêtons de faire comme si on ne le savait pas. Nous savons que ce monde passe. Et ça, c'est un élément de notre témoignage que de pouvoir, par notre vie, par notre manière d'aborder les événements de notre vie, montrer que la vie terrestre, c'est pas tout. Et que même dans les joies, les peines, eh bien, nous le vivons différemment, avec un abandon plus grand, avec une action de grâce, avec une démarche de louange, louer le Seigneur en toutes circonstances, nous dit l'Écriture sainte, y compris dans les difficultés. S'abandonner en toutes circonstances. Et quand nous sommes dans la joie, ne pas faire comme si la nouvelle que nous avions d'apprendre, c'était le paradis assuré. Mais bien sûr que non, et le paradis est plus sacré, plus désirable que toutes les joies terrestres. Donc, relativiser aussi les joies de la terre, non pas de ne pas en profiter, ne pas les vivre, ne pas les goûter, mais les goûter de façon juste. Vivre la même chose que tout le monde, mais de manière différente. Et cette distance spirituelle, qui n'est pas une distance d'indifférence, cette distance spirituelle nous permet de garder une sérénité quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Peut-être d'ici quelques temps, nous allons de nouveau être confinés. Comment le vivre ? Avec cette distance intérieure qui fait qu'on se met dans les mains du Seigneur. On prend ses responsabilités, on se met dans les mains du Seigneur et on essaie de vivre notre vie chrétienne, notre vie tout court et notre vie chrétienne de façon toute donnée à Dieu, en se disant que le Seigneur m'attend encore là, il m'attend pour le servir. Ces événements que nous vivons ne sont pas des choses qui nous empêchent de vivre en chrétien. Même si, ce qui me fatigue le plus, c'est l'interdiction du culte, évidemment. Mais même cela, nous pouvons le vivre en chrétien et nous ferons tout pour vivre et en étant des bons chrétiens, des bons témoignages de sainteté. Voilà. Donc voilà comment se convertir, suivre Jésus et vivre la vie terrestre en sachant que ce monde passe et donc garder la tête froide, garder la distance spirituelle en sachant que l'important c'est le ciel et c'est Dieu et que finalement tout doit être rendu à Dieu. Et c'est là notre paix intérieure. Là est notre paix intérieure. Rien ne peut nous inquiéter vraiment. Rien ne peut nous enlever la paix du cœur. Puisque pour avoir Dieu avec nous, nous l'avons. Voilà. En ce dimanche, c'est le dimanche de la parole de Dieu, comme je vous le disais, eh bien, il nous faut réaliser que pour le chemin de conversion, nous avons besoin de fréquenter la parole de Dieu. Et il nous faut la fréquenter. Si le pape François a demandé qu'il y ait ce dimanche de la parole de Dieu, c'est parce qu'il a senti que nous catholiques, nous avons bien cheminé dans la redécouverte de la parole de Dieu, mais que ce n'est pas suffisant. Il nous faut continuer à la fréquenter, à l'aimer, à la méditer, à la prier. Il nous faut contenter à la connaître. Il faut continuer à la connaître. Normalement, autrefois, nos aïeux apprenaient par cœur des passages de la parole de Dieu, parce qu'il n'y avait pas l'écrit de la même manière. Depuis l'imprimerie, eh bien, il y a des Bibles un peu partout. Et maintenant, si on ne la reconnaît pas par cœur, eh bien, il faut avoir une Bible. L'avoir à disposition, à portée de main, en permanence. On doit en avoir dans sa maison, évidemment. On doit en avoir aussi dans les lieux que l'on fréquente le plus. Dans notre lieu de prière, dans nos espaces de prière, on doit en avoir partout où, finalement, on peut avoir besoin de l'ouvrir. Donc, l'avoir, certes, mais l'ouvrir et la lire. Cette parole, nous devons vraiment la fréquenter. Thérèse de Lisieux dit que toutes les questions qu'elle se posait, elle les trouvait les réponses dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est toujours ainsi pour nous. La parole de Dieu contient toutes les réponses à nos prières et à nos intentions. Donc, fréquentons cette parole. Alors, sur la paroisse, bientôt, ça fait partie des choses que je demandais depuis que je suis arrivé sur la paroisse, donc ça fait déjà un petit moment, presque 9 ans, c'est avoir des Bibles catholiques à prix très bas pour pouvoir les diffuser. Mais les diffuser largement, pour qu'on arrête de donner simplement des petits évangiles, comme s'il y avait... Non, la parole de Dieu dans son ensemble doit être distribuée, la Bible tout entière. Parce que pour bien connaître Dieu, il nous faut fréquenter la Bible tout entière. Et donc, eh bien, il se trouve que Siloé m'a dit qu'il y avait des Bibles à un prix très très bas qui allaient diffuser, des Bibles catholiques, hein, des Bibles avec la traduction liturgique, donc au prix de 5 euros. Donc on va en acquérir une centaine. On aura un stand à l'entrée de l'église. Les gens pourront faire une offrande s'ils veulent, mais en tout cas, elles seront à disposition. Et donc, je vous invite, vous aussi, vous pourrez vous servir aussi et en distribuer autour de vous. Évidemment, cette parole, quand on la diffuse, on doit la diffuser avec le témoignage qui va avec, évidemment. Mais en tout cas, mettre cette parole partout. La Bible catholique, enfin la Bible, quand je dis la Bible catholique, c'est la traduction. Traduction catholique, c'est important de diffuser la traduction catholique parce que sur des points clés de la compréhension, de la révélation, nos frères protestants corrigent, enfin, traduction, trahison. Donc, quand on lit la Bible en français, c'est de la traduction du grec et de l'hébreu, et parfois, on interprète. Donc, notre interprétation, l'interprétation que nous croyons bonne, c'est celle qui est catholique, donc la traduction liturgique de la Bible, et donc nous en aurons une centaine ici à diffusion. Le diocèse a aussi édité un petit flyer, un petit dépliant, pour nous aider à prier avec la parole de Dieu. Alors, ce flyer est fait pour vivre les choses à plusieurs. Ce n'est pas automatiquement évident, mais en tout cas, vous l'avez à disposition, vous pouvez vous servir, puis peut-être avec d'autres, prier la parole de Dieu à l'aide de ce petit flyer. Et puis, ça m'a fait penser qu'il faudrait que je fasse rapidement un petit flyer là pour prier la parole de Dieu seul, avec la tradition de la Lectio Divina, une tradition très ancienne, une manière d'aborder la parole de Dieu. De fait, la parole de Dieu ne se lit pas comme un autre livre. On peut le lire comme un autre livre, mais ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu se prie, se médite, et on la laisse pénétrer notre cœur et convertir notre vie. Voilà, et donc, bientôt, je vous proposerai aussi ce petit flyer. Voilà, en tout cas, prenons la parole de Dieu dans notre vie, fréquentons-la, aimons-la, hein, la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, qui ignore la parole de Dieu, ignore le Christ, hein, alors, je ne sais plus si c'est Tertullien ou Saint-Jérôme, mais enfin bon, un père de l'Église. Voilà. Donc, demandons au Seigneur de redécouvrir et d'aimer encore davantage la parole et surtout de la fréquenter et de l'avoir partout. Partout, nous devons avoir cette parole avec nous. Je voudrais terminer cette homélie en vous invitant à prier pour l'unité des chrétiens. Sans doute que pour retourner vers Dieu, pour retourner dans l'unité chrétienne, eh bien, la parole de Dieu va nous... C'est la parole de Dieu qui est le point commun, enfin c'est le Christ qui est le point commun évidemment, mais la parole de Dieu aussi est le point commun où nous pouvons nous retrouver. Hein? Mais nous sommes en semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et je vous invite à prier avec moi la prière de l'abbé Couturier, qui a donc écrit cela, qui a été un grand initiateur et de la prière de l'unité des chrétiens, pour l'unité des chrétiens. Sur votre feuille, vous avez cette prière. Je vous invite maintenant à la prier avec moi si vous voulez. Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme moi, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance, et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.